aussi remercier Otan et Dorval Brunel, Christian Desblocs, Michel Rue. Et bon, pour l'invitation qui nous ont fait au groupe mexicain pour venir ici et avoir bon et un bilan sur les 20 ans de la laine. Vous n'attendez pas? Ah, oui, voilà, je m'excuse. Comme ça, ça va? Oui, bon, merci beaucoup. Alors, disons, le sujet que je vais développer, c'est quand même un sujet assez controversé. En spécial, quand on se rend compte que la plupart de l'investissement étranger au secteur minier chez nous, ça vient exactement des entreprises canadiennes. Alors, avant d'arriver à ça, que c'est quand même bon, le noyau du sujet, je voudrais faire quelques remarques de façon à clarifier quelques aspects qui n'ont pas été assez développés dans le débat sur l'investissement canadien, l'investissement étranger au Mexique et au secteur minier. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est que... c'est moi qui bouge. Comment est-ce que ça fonctionne, toi?
À droite, c'est moi à droite.
Ah, voilà, à droite. Bon, c'est trop de technologie pour moi. Voilà. Bon, alors, la première chose, d'une façon...
Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Ah.
Tu ne vas pas compter les temps que tu es en train
de faire. Honnêtement,
ah, voilà.
Voilà.
Merci, c'est gentil. Alors, bon, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en effet, les grands changements vis-à-vis de l'économie mexicaine, mais surtout en référence avec les secteurs primaires et les secteurs miniers en soi, bon, ça, c'est en rapport avec la crise économique de 1982, et aussi qu'il y a eu une réorientation assez importante au niveau de l'économie. Et là, simplement, je voudrais attirer votre attention sur des grands moments dans lesquels on commence à se préparer pour avoir, disons, plus tard, l'investissement, pas seulement l'investissement canadien, l'investissement étranger global sur le secteur minier. Brièvement, en 1985, le Mexique a décidé de faire la négociation du GATT. Et ça a fait un grand changement chez nous au niveau de la libéralisation bon, des tarifs. C'est-à-dire, on a passé, comme ont dit mes collègues, d'une économie très protectionniste à une économie de plus en plus ouverte. Alors, mais la question c'est la suivante. Comment est-ce que l'ouverture économique au Mexique dans un moment donné, a pu favoriser d'abord le secteur primaire, secondo, le secteur minier. Alors, j'ai fait un graphique qui peut vous montrer clairement, disons, les changements qu'il y a eu chez nous à partir de 1960 jusqu'à, disons, 2012. Alors là, ce qui m'intéresse, disons, de mettre en place, c'est d'abord la question suivante. En 1960, c'est-à-dire au début de la graphique, on a eu un processus qu'on appelle la mexicanisation. Et alors là, c'est un processus fort important, disons, parce que l'État mexicain a pris la décision d'abord de commencer à protéger de plus en plus les ressources naturelles, mais, hélas, à faveur de l'investissement privé mexicain. Ce n'est pas comme on croit que depuis le début, disons, l'investissement étranger est rentré. Alors, pendant 20 ans, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à à peu près 1993, disons, les entreprises mexicaines minières ont eu un période de grâce extraordinaire simplement pour récupérer disons, les terrains pour commencer à faire des exploitations, etc. Alors, pour, disons, il y a eu 20 ans disons, d'exploitation minière avec des entreprises mexicaines. Et il y avait aussi des capitaux étrangers, mais ils devaient, garder simplement 50%, 51% des propriétés mexicaines. C'est-à-dire jamais, pendant tous ces 20 ans, jamais l'investissement étranger a eu la possibilité, comme après, comme maintenant, d'avoir 100% d'investissement. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et j'essaie de me lier à la présentation d'Isidro sur la question du pétrole, c'est que, bon, quand on était en train de faire la recherche pour cette présentation, on a quand même découvert certaines petites choses, à mon avis, assez intéressantes. En effet, d'abord, le gouvernement mexicain, disons depuis la période de la mexicanisation, il a eu en effet deux stratégies, pas une stratégie sur les ressources naturelles, deux. Une, ça a été, disons, la partie du pétrole, qui était très bien expliquée par Isidro, dans laquelle le gouvernement mexicain décide de s'approprier complètement de la rente pétrolière. Et disons, là, c'était très important parce que, disons, jusqu'à certain point, non pas jusqu'à certain point, complètement, la rente pétrolière était le ciment pour toute la politique du développement du pays, mais aussi pour payer la bureaucratie. C'est-à-dire, ça c'est une chose assez intéressante. Alors, d'un côté, le gouvernement mexicain a mis la main sur le pétrole, sur Pemex, il a dit, ça c'est à nous, ça ne va pas bouger, on ne va pas les laisser ouverts à l'investissement étranger, etc. Mais de l'autre côté, et ça c'est un processus assez silencieux, à mon avis, on peut voir ça. C'est-à-dire que le gouvernement a cédé une partie de son droit, si on peut dire ça, sur les ressources naturelles, et il a cédé ça à l'investissement mexicain ou l'investissement étranger qui était d'accord pour partager avec les entreprises mexicaines. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une grande dichotomie. D'un côté, le gouvernement a commencé à gonfler, disons, son budget grâce à Pemex, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de négociation à l'amiable dans laquelle il a décidé, bon, que le secteur privé aussi, il avait besoin d'avoir un morceau du gâteau, et alors c'était le secteur minier. De telle façon que, en effet, c'est à cause de ça que finalement, quand on commençait à ouvrir de plus en plus, surtout à partir de 1982, on a commencé à ouvrir le secteur, alors c'était plus ou moins facile pour les entreprises et minières étrangères de se placer de plus en plus. Mais j'insiste, et ça c'est une chose assez intéressante à mon avis, c'est que pendant 20 ans, l'entreprise mexicaine a eu le temps, pas seulement de se restructurer, de devenir plus moderne, etc., mais surtout, elle a eu l'opportunité de se faire propriétaire, si on peut dire ça, disons, d'avoir les concessions, de meilleures parties du secteur minier du Mexique. C'est-à-dire, en effet, l'investissement canadien, l'investissement américain, etc., en effet, on cueille seulement les miettes. Disons parce que, en effet, avant, les grandes entreprises mexicaines avaient mis la main sur le secteur minier. Première chose. Alors, le secteur minier chez nous, il a commencé à se développer dans des conditions d'oligopole. C'est-à-dire qu'en effet, c'est que quand même c'est assez extraordinaire, c'est qu'on peut parler à peu près de 5 compagnies minières mexicaines grandes, de taille, les restes sont petites et moyennes, mais c'est eux qui contrôlent absolument les secteurs miniers au niveau de exploitation, production, exportation, etc. Alors, la graphique, ce qui veut, vous présenter, c'est que malgré que depuis 1960 jusqu'à presque 1982, disons, il y avait un processus de mexicanisation. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que, en effet, les compagnies n'investissent pas trop. C'est-à-dire que il y a une forte différence entre les premières années et après, bon, qu'il y a une montée extraordinaire. Alors, mais comment est-ce qu'on peut... Oui, merci beaucoup. Alors, nous avons fait la graphique et nous avons croisé, disons, les lois constitutionnelles qui ont été mises en rapport avec le développement de l'investissement dans le secteur minier. Et alors, on a quand même trouvé une chose assez intéressante. C'est-à-dire, si vous voyez, c'est à partir de 1986, c'est-à-dire l'ouverture, disons, après les GATT, que ça a commencé à monter, mais effectivement, c'est à partir du moment que nous avons commencé à négocier en 1992 la NAFTA, que alors l'investissement a commencé à grandir de plus en plus. Alors, là, pour comprendre bon, ce qui s'est passé à ce niveau, il faut quand même disons, prendre compte de quel gouvernement mexicain, comme je vous expliquais, a pris la décision, c'est-à-dire de protéger le capital pendant des années et a mis vraiment au marge l'investissement étranger. Alors, quand on discute chez nous, disons, sur les monopoles tels que les monopoles Telmex, que c'est la mon Dieu, ni même j'ai arrivé à mon sujet. Les mêmes monopoles, les grands monopoles mexicains qui contrôlent les télécommunications, une partie de l'électricité, etc., ce sont les monopoles qui sont branchés avec le secteur minier. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle vraiment très, 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 très fort dans lequel, finalement, quand on fait la radiographie de l'économie à partir de ces données, on est quand même assez surpris de se rendre compte que, par exemple, la minière Frisco, que c'est une minière importante propriété de Monsieur Carlos Slim, c'est-à-dire Grupo Carso, en effet, il y a une connexion avec les monopoles de télécommunications, etc. Et bon, et je peux continuer à vous expliquer ça pendant des heures et des heures. Alors, oui, non. Alors, il y a eu deux phases au niveau, disons, du développement de l'investissement sur le secteur minier. Alors, dans la première phase, le gouvernement, la première chose qu'il a décidé, c'est de commencer à vendre absolument toutes les entreprises, non pas seulement les compagnies minières, qui étaient liées à ce type d'activité. C'est-à-dire, d'abord, il s'est défait de tout ce qui était les actifs. Et dans le deuxième moment, bon, alors là, vous avez simplement quelques. Si vous voyez surtout, j'attire votre attention sur la partie des années. Disons, dans la première colonne, vous pouvez voir depuis quand est-ce que le gouvernement était propriétaire de toutes ces compagnies minières, métallurgiques, etc. Et après, comme ça a commencé à passer sous les mains de la propriété privée mexicaine, et ça c'est bien sûr les années 85, 90, etc. Et alors, bon, et ça est devenu un grand monopole, d'abord j'insiste mexicain et après mixte. Alors, j'arrive à la LENA. Disons, quand la négociation était faite au niveau de la LENA, bon, la plupart de préoccupations, si on peut dire, au niveau du secteur primaire, c'était le pétrole. Qu'est-ce qu'on allait faire avec PMS, avec l'exploitation du pétrole, quelle serait la politique à ce niveau. Le Mexique, bon, il a fait beaucoup d'attention à l'expérience qu'il y a eu avec le Canada, disons, avec son accord du libre-échange avec les États-Unis. On a vu bon, les effets négatifs de la clause de proportionnalité. Et alors, le gouvernement mexicain a décidé de garder, disons, le pétrole comme une exemption et, disons, mais par contre, disons, et c'était assez intéressant, d'une façon très silencieuse, y la négocié à l'intérieur de la laine, ce qui était, disons, le secteur minier. Il a mis de côté jusqu'à maintenant la partie pétrole, mais le secteur minier, il était négocié. Et comment est-ce qu'il était négocié? Parce qu'en effet, il y a eu très peu de publicité à ce niveau. Bon, d'abord, voilà, attendez un peu. Alors, disons, il y a eu une libéralisation très vite. Disons, dans la laine, il y avait la possibilité de faire une libéralisation entre 5, 10 et 15 ans. Et le secteur minier, il a dit non, 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 tout de suite, presque tout de suite. On va faire une libéralisation rapide, disons, parce qu'on a intérêt d'être tout à fait ouvert, en spécial parce qu'il avait un clair calcul, il voulait se moderniser. Et alors, c'était très important de, par exemple, ouvrir la partie règles d'origine de façon à importer de plus en plus, disons, toute la machinerie depuis les États-Unis en spécial, pas tellement du Canada. Et alors, une chose qui a joué d'une façon très impressionnante sur la façon comment l'investissement a commencé à rentrer de plus en plus, c'est bien sûr le chapitre numéro 11. Disons, parce que jusqu'à 1994, en effet, il y avait la libéralisation, le gouvernement de plus en plus faisait, disons, des flexibilisations administratives, etc. Mais jamais il y avait trop de garanties au niveau de quand, par exemple, le gouvernement pouvait changer d'avis et devenir de nouveau protectionniste, etc. Alors, le chapitre numéro 11, il a joué un rôle central dans le secteur minier parce qu'il y a eu, la garantie. Voilà. Alors, il y a eu la garantie de que, à partir de ce moment, l'investissement pouvait carrément, l'investissement étranger pouvait carrément le faire chez nous, et que si dans un moment donné les choses n'allaient pas, bon, il pouvait aller chez l'UNCITRAL ou chez les CIADI, c'est-à-dire les deux mécanismes de solution de différents. Et, bon, c'est une chose que hier a très bien développé Monsieur Ouellet. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a eu un partage extraordinaire. Plus je travaille le sujet, plus j'ai mes passions. Disons parce qu'il y a eu un partage extraordinaire dans lequel les Américains ont commencé à diminuer sa présence, disons, dans l'activité minière au niveau d'exploration, et ont laissé la place au secteur minier. Dans certains cas, il y a eu des conversions. Dans certains cas, c'est les Canadiens qui sont rentrés carrément. Mais une chose qui était assez intéressante, c'est que le secteur mexicain, la partie privée, a décidé carrément qu'ils étaient beaucoup plus intéressés de faire venir toute la technologie, en spécial des États-Unis, et laisser, disons, les Canadiens investir dans l'exploration et dans la production, c'est-à-dire la partie la plus compliquée, la plus sale, disons que c'est lié avec, disons, avec la société civile. Oui, voilà. Alors, ça, disons, c'était laissé pour les Canadiens. Alors, bien sûr, le secteur privé mexicain qui est... Allez, je vais vous montrer ça. Et je viole complètement les règles.
Tout à fait.
Oui. Ça fait partie de ma nature. Alors, là, disons, je vous présente un graphique, quand même c'est assez important, dans lequel vous pouvez voir, disons, c'est les trois présidents, bon, maintenant les quatre présidents qu'on a eu dans les dernières décennies. Et alors, c'est quand même intéressant de voir, disons, comment le gouvernement a commencé à laisser les concessions aux mains de l'investissement étranger. Disons, parce que l'investissement mexicain, il avait déjà pris la meilleure partie. Et alors, on peut voir parfaitement bien comment la partie la plus haute, c'est pendant la période de Vicente Fox. Après, ça a descendu un tout petit peu chez Felipe Calderón. Et ça remonte de nouveau, c'est Monsieur Peña Nieto. Mais de toute façon, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment, disons, le territoire a commencé à céder. Alors là, vous avez les quantités d'hectares qui ont été cédées. Alors la partie qui est complètement vide, c'est parce que le gouvernement, avant les statistiques du gouvernement mexicain, présentaient des données sur l'exploration et sur l'exploitation. Mais après, quand on découvre que c'était terriblement controversiel, parce que la plupart des conflits, c'est exactement dans la partie exploration, on décide simplement de mettre tous les deux ensemble, et alors maintenant nous avons seulement une base de données, et c'est tout. Alors, je vais finir bientôt.
Ça, c'est café, ça va bien.
Non. Alors, ça, voilà. Et alors, là, je voulais vous présenter la façon comment, disons, les capitaux des États-Unis et du Canada ont commencé à avancer au niveau de l'investissement minier. C'est assez clair comment les États-Unis prennent, il y a un recul, et par contre, comme l'investissement canadien commence à monter de plus en plus. Alors là, vous pouvez voir, c'est-à-dire comment les entreprises canadiennes ont commencé à monter. Mais une chose que, quand même, honnêtement, il faut dire, c'est que, voilà, nous avons 287 entreprises canadiennes maintenant en train d'investir, etc., chez nous. Mais j'insiste, elles sont en train d'être localisées, placées dans des circonstances complètement difficiles et compliquées. Disons, parce que disons, le meilleur terrain, c'est sur la propriété des Mexicains. Alors, ça c'est, disons, ça c'est le projet minier dans la phase d'exploration, et ça c'est seulement canadien. C'est-à-dire, la plupart du territoire mexicain, il est complètement lié à l'investissement canadien. Par contre, au niveau, disons, de production, ça change un tout petit peu. Voilà, ce sont les compagnies. Alors, pour finir, ça c'est vraiment, honnêtement, pour finir. ça c'est, disons, les points de débat les plus importants qu'il y a entre, disons, les compagnies minières et, disons, le gouvernement mexicain. Mais c'est assez intéressant de dire que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune demande, disons, en phase du chapitre numéro 11, de la part des entreprises minières, soit américaines, canadiennes, etc. C'est-à-dire, le chapitre 11 a encouragé la rentrée de l'investissement étranger, mais l'investissement étranger ne veut pas, jusqu'à maintenant, utiliser le chapitre numéro 11, comme c'était le cas de différentes entreprises dans le secteur, par exemple, manufacturier. Alors, la question c'est, pourquoi? Disons, pourquoi Goldcorp, après tous les problèmes qu'il est en train d'avoir avec le gouvernement, avec la société civile, etc., pourquoi est-ce qu'il ne va pas chez les CIADI, chez les UNCITRAL, et présente une demande, étant donné que bon, il y a pas mal de problèmes, Caballo Blanco, la population a carrément fermé la mine, etc. Bon, disons, je vais vous dire d'une façon très courte que, en effet, on fait un calcul économique et se sont rendus compte que quand même, disons, ils sont en train de gagner autant d'argent, autant de bénéfices avec l'activité minière chez nous, qu'en effet, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps et beaucoup d'argent, disons, dans une demande que peut-être que dans un moment donné va enrager le gouvernement mexicain, et alors il va avoir une décision, disons, de l'âme. Comme ça a été le cas de Metalclass, dans lequel le gouvernement mexicain, à la fin, il a décidé que tout le terrain autour de Metalclass était propriété de la nation et que alors Metalclass ne pouvait plus travailler dans ce secteur. Alors bon, c'est fini. Merci pour votre patience. Surtout merci Nicolas.